France Inter, 7h.
France Inter. Nicolas Demorand. Le 7-9.
Mercredi 15 mai, bonjour à tous et bienvenue sur France Inter. Agnès Soubiran, bonjour.
Bonjour.
À la une de l'actualité ce matin, l'appel de Christchurch contre le terrorisme et l'extrémisme violent sur Internet. Un appel qui sera lancé aujourd'hui depuis Paris en présence de la première ministre néo-zélandaise et des géants du numérique. On voit ça en détail, Agnès, après les autres titres.
Les premiers résultats de Parcoursup ce soir, à un mois tout juste de l'épreuve de philo. Nous étions riches, on a fini pauvres. Déclaration de Patrick Balkany hier à la sortie de l'audience. L'église catholique polonaise dans la tourmente après la diffusion d'un documentaire choc sur la pédophilie. Des granules très consommés mais qui ne seront peut-être bientôt plus remboursés. Et enfin un magnifique son et lumière gratuit pour célébrer les 130 ans de la Tour Eiffel.
Les invités de France Inter ce matin. Alexandra Ben Saïd, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous.
7h50.
Activiste, féministe et leader, c'est la présidente des Femen. Ce matin, pas de message écrit sur sa poitrine, mais un livre, un engagement en amont du G7 pour l'égalité homme-femme. Finalement, quel est donc le chemin le plus court vers la révolution des femmes? Nous avons rendez-vous avec Ina Shevchenko à 7h50.
A tout à l'heure Alexandra, à 8h20, la suite de nos grands entretiens spéciaux, une tête de liste aux européennes tous les jours au micro de France Inter. Aujourd'hui, ce sera Nicolas Dupont-Aignan pour Debout la France. Vos questions dès maintenant, le standard est ouvert au 01 45 24 7000.
France Inter.
Un degré supplémentaire dans l'horreur a été franchi il y a deux mois lors de l'attaque de deux mosquées en Nouvelle-Zélande. Le terroriste avait minutieusement préparé son acte en utilisant Facebook comme plateforme pour diffuser en direct les images de la tuerie. 51 personnes tuées sous les yeux du monde entier. Une vidéo que les autorités ont eu le plus grand mal à éliminer, supprimée 1,5 million de fois et inlassablement remise en ligne par des internautes. La première ministre néo-zélandaise est donc aujourd'hui à Paris aux côtés d'Emmanuel Macron pour lancer l'appel de Christchurch. Objectif, lutter contre le terrorisme en ligne. Christian Chenon.
Être plus rapide que les terroristes ou ceux qui diffusent leur propagande sur Internet, voilà l'ambition de l'appel de Christchurch qui veut poser des axes de travail concrets et efficaces pour s'attaquer à ce fléau planétaire. Il ne s'agit pas de rajouter une couche déclaratoire, indique-t-on à l'Elysée, mais de mettre les entreprises du numérique devant leurs responsabilités, même s'il y a déjà une vraie prise de conscience des géants du net de cette problématique. Bref, coordonner les efforts entre les États et les entreprises privées. Mais les limites de l'exercice sont nombreuses, à commencer par le respect de la liberté d'expression, ADN des réseaux sociaux, car traquer des contenus terroristes ne signifie pas pour autant renoncer à un Internet libre, ouvert et sûr, selon l'Elysée. Autre point de faiblesse, l'appel de Christchurch n'est pas contraignant et un pays majeur comme les États-Unis ne fait pas partie des membres fondateurs. Washington a simplement envoyé un observateur. C'est pourquoi Emmanuel Macron veut inscrire la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent en ligne à l'agenda du prochain G7 de Biarritz pour mobiliser toutes les grandes puissances.
Et aujourd'hui, plusieurs dirigeants s'associent à cet appel. Le roi de Jordanie, le premier ministre canadien, Theresa May, Jean-Claude Juncker, en présence bien sûr des géants du net, dont Facebook, qui annonce d'ailleurs ce matin restreindre l'usage de sa plateforme live de vidéos en direct. Mais pour Nicolas Apagian, spécialiste en cybersécurité, le comportement des internautes est aussi déterminant.
Il faut des États de manière à établir la norme de droit, il faut des entreprises qui sont les acteurs effectifs du numérique et qui donc vont rendre concret les suppressions de contenu. La seule chose, c'est que on l'a vu avec la vidéo de Christchurch, c'est-à-dire que l'assassin s'était filmé et diffusé en direct sur Facebook et au même moment, des internautes multipliaient les diffusions, c'est-à-dire que ce sont bien des individus, des particuliers qui faisaient la démarche de remettre en ligne alors même que Facebook le supprimait. Donc on voit bien que la coopération des États et des entreprises est nécessaire, mais que les usages des consommateurs vont être également déterminants.
Cet appel de Christchurch est lancé en marge du sommet Tech for Good qui se tient aujourd'hui à l'Elysée. 79 participants pour parler aussi progrès social et respect de l'environnement.
Il est 7h05, Agnès, dernières heures d'attente avant les premiers résultats de Parcoursup.
C'est à 19h ce soir que vont tomber les premières réponses aux vœux formulés par les futurs bacheliers, près de 900 000 inscrits sur la plateforme d'accès à l'enseignement supérieur, en grande majorité donc des élèves actuellement en terminale, mais aussi de plus en plus d'adultes qui veulent reprendre des études, 110 000 cette année, comme Gabriel Sipsilva, 50 ans, que Sonia Princé a rencontré.
En attendant ces résultats dans Parcoursup, Gabriel Sipsilva n'est pas vraiment stressé.
Ah mais je suis assez tranquille, hein. Je ne me suis pas vraiment inquiété. Une fois que j'étais inscrit, l'inscription est particulièrement difficile au départ, parce que c'est comme si vous avez le CV à envoyer, faire des lettres de motivation à une entreprise. Mais bon, comme j'ai fait ça pas mal de fois, donc ça ne m'a pas beaucoup gêné, donc j'attends assez calmement.
Ce candidat très particulier a été militaire, puis peintre et maintenant réceptionniste de nuit dans un hôtel. Il a eu le bac l'an dernier après 3 années laborieuses où il menait de front le travail et les études.
Cette année, j'ai pris le temps de souffler, de digérer le bac. Je ne me voyais pas aller commencer l'université, sachant que l'université, quand même, c'était particulier. J'ai des collègues qui y sont et qui sont plantés la première année, qui ont abandonné même. Donc, je ne me voyais pas me lancer là-dedans alors que j'étais vraiment en bout de course.
Il n'a fait qu'un vœu dans Parcoursup, mais il est confiant.
J'ai pas beaucoup de choix, hein. Dans Paris, j'ai que la Sorbonne qui peut faire le droit à distance, parce que moi, je continue à travailler. Mais bon, généralement, ils sont assez conciliants. Pour les élèves adultes, en fait.
À 50 ans, Gabriel Sipsilva se prépare à de longues études. Il veut devenir avocat.
Les premiers mots de Patrick Balkany au deuxième jour de son procès et de celui de son épouse devant le tribunal correctionnel de Paris. Au cœur des débats hier, le patrimoine immobilier du couple de Levallois-Perret. Pas de déclaration d'ISF pour la villa de Saint-Martin qu'Isabelle Balkany a fini par reconnaître. En revanche, le couple nie toujours être propriétaire du riad de Marrakech. Patrick Balkany, interrogé par Sarah Guibaudot à la sortie de l'audience hier.
Bien entendu, je vais répondre aux questions. On est en train de me taxer, par exemple, sur la villa de Marrakech. La villa de Marrakech ne nous appartient pas. On l'a dit au juge. On a démontré que ce n'était pas notre villa. Là, on voudrait simplement me la coller dans mon patrimoine. Et puis, je vais vous dire, ça fait 36 ans que je suis maire. Je n'ai jamais été corrompu par personne. Et c'est pas demain la veille. J'ai commencé la politique avec ma femme. Nous étions riches, on l'a fini pauvre.
Mais vous allez 5 fois par an dans une villa qui ne vous appartient pas ?
Vous êtes propriétaire ou locataire de votre appartement ? Si vous êtes locataire, vous y allez tous les jours. On avait loué des maisons à l'année à Saint-Tropez pendant 6 ans et j'étais locataire. Mais quand j'invite quelqu'un, je lui dis venez chez moi, je dis venez pas chez mon propriétaire.
Patrick Balkany qui sera interrogé à la barre cet après-midi.
Il est 7h07, Agnès, et de 4, les députés britanniques vont à nouveau se prononcer sur le Brexit.
Ce sera début juin et la Première Ministre espère enfin sortir de l'impasse politique grâce aux discussions qui se poursuivent avec le leader travailliste Jeremy Corbyn. Le projet de loi d'accord sera soumis au vote des députés la semaine du 3 juin dans l'espoir d'une sortie de l'Union européenne avant les vacances parlementaires. C'est un documentaire qui secoue la très catholique Pologne, un documentaire déjà vu plus de 13 millions de fois. Seulement ne le dit à personne, c'est son titre, montre les aveux en caméra cachée de prêtres pédophiles à qui des victimes viennent demander des comptes des années après les faits. Un choc en image avec Thomas Guibaudot.
Le documentaire débute par une confrontation. Une femme victime des attouchements d'un prêtre à l'âge de 7 ans le rencontre 30 ans plus tard. L'homme à la retraite n'a jamais été condamné et ne sait pas qu'il est filmé.
Vous avez touché mes parties intimes, là où vous n'auriez pas dû.
Je n'aurais jamais dû faire cela, je le regrette profondément. C'était une passion stupide et maintenant, qu'est-ce que je peux faire ?
Le prêtre lui demande pardon, fin de la séquence. Le réalisateur enquête ensuite sur d'autres affaires, des curés mis en cause et même condamnés pour pédophilie ont été envoyés dans d'autres paroisses, certains toujours en contact avec des enfants. Après la mise en ligne du film, le primat, le premier archevêque de Pologne, a assuré qu'il ferait tout pour éclaircir ces dossiers. Membre d'une association d'aide aux victimes, Agata Diduszko-Zeglewska en doute sérieusement.
On parle là des crimes que l'Église dissimule, donc la seule réaction qu'on attend de l'Église est la suivante. Ok, nous transmettons tous les dossiers à la police, et puis cet évêque et celui-ci et encore un autre sont démis de leurs fonctions car ils ont couvert des viols d'enfants, mais cela ils ne le font toujours pas.
Le gouvernement conservateur proche de l'Église a annoncé un allongement des peines jusqu'à 30 ans maximum pour pédophilie. Encore faut-il, insiste la militante, que les prêtres accusés soient amenés devant la justice. Varsovie, Thomas Giraudeau, France Inter.
Et en France, le nonce apostolique visé par 4 plaintes pour agression sexuelle va être confronté à 6 accusateurs dans le cadre de l'enquête. date, première confrontation dans 6 jours pour le premier plaignant. C'est une information France Inter de Julie Pietri à retrouver sur franceinter.fr. En Allemagne, l'enquête sur 5 décès mystérieux, dont 3 par arbalète, s'achemine vers la piste d'un pacte suicidaire. Les victimes étaient des adeptes de l'imagerie médiévale et d'alchimie.
Retour en France, il est 7h10 avec une décision très attendue de la Haute Autorité de Santé.
Concernant la fin possible du remboursement de l'homéopathie, un peu plus d'un an après la tribune des 124 médecins dénonçant les médecines alternatives et leurs coûts pour l'assurance maladie. Et selon le quotidien Libération, la tendance serait au déremboursement, Véronique Julia.
C'est au mois d'août dernier que le ministère de la Santé a demandé à la HAS d'évaluer le bien fondé du remboursement de l'homéopathie. La tâche était si grande, avec plus de 1000 souches de plantes à étudier, que l'avis tant attendu et promis au départ pour le mois de février a mis un peu plus de temps à se construire. Pendant des mois, l'autorité a compilé toutes les études faites sur le sujet depuis des années. Elle a ensuite consulté les sociétés savantes, les structures représentatives de patients, les ordres de médecins. Sur ces bases, un vote d'experts a eu lieu le 17 avril dernier. Il a fallu depuis en rédiger les conclusions. L'avis qui sera rendu aujourd'hui va ouvrir une phase contradictoire de 10 jours qui permettra aux parties prenantes de faire valoir leurs arguments. L'avis définitif sera rendu dans la foulée. Ensuite, c'est la ministre qui tranchera pour ou contre le maintien du remboursement à 30%. Elle a déjà dit qu'elle suivrait les conclusions de la Haute Autorité de Santé. Pour rappel, l'homéopathie, c'est plus de 100 millions d'euros de remboursement pour la Sécurité sociale chaque année, ce qui représente moins d'1% du coût total des remboursements de médicaments. Plus de 7 Français sur 10 aujourd'hui disent faire confiance à l'homéopathie.
Il part, oui, mais où ? Antoine Griezmann a annoncé hier qu'il quittait l'Atlético Madrid après 5 belles saisons, sans doute pour rejoindre le Barça qui lui avait déjà fait les yeux doux l'an dernier, mais le PSG serait aussi sur les rangs. Après la soirée d'ouverture à Cannes hier soir, la compétition continue, avec notamment le premier des 6 films français en compétition, Les Misérables de Ladji Lee, et puis le film également du Brésilien Kleber Mendoza Filho, Bakuru. Enfin, célébrons ensemble l'anniversaire d'une vieille dame, toujours droite comme un i, la Tour Eiffel. Voilà 130 ans aujourd'hui qu'elle accueille les visiteurs du monde entier. Un anniversaire qui se décline en ateliers d'écriture, en concert et en shows lumineux. Mathieu Culeron.
Au cours de sa vie, la Tour Eiffel aura vu défiler des orchestres philharmoniques, 3 concerts de Johnny Hallyday et même un concert de punk à son sommet. Et cette année, pour ses 130 bougies, elle convoque 1350 enfants pour un atelier d'écriture géant, un projet initié par Christophe Girard, adjoint à la culture à la mairie de Paris, pour l'anniversaire de la vieille dame.
Alors la vieille dame, faut vous souvenir qu'elle a fait scandale. Et pour les enfants, je pense que c'est bien de savoir que la Tour Eiffel a fait l'objet de lettres, même de lettres anonymes, de gens qui dénonçaient. Il y avait des corbeaux de la Tour Eiffel. D'avoir des enfants qui vont envoyer une carte postale, une lettre, ou à qui ils veulent en racontant leur journée à la Tour Eiffel, je trouve que c'est une belle manière pour eux d'apprendre le patrimoine. Je pense que c'est une belle manière de célébrer la Tour Eiffel.
L'autre temps fort de cette célébration, c'est le concert de Jeanne Hadet, juste sous la Tour Eiffel, la double lauréate des Victoires de la Musique, qui succède ainsi à Johnny Hallyday, en toute simplicité.
Du coup, je me suis dit, j'ai un peu l'impression qu'ils ont fait une erreur de casting, mais je suis extrêmement contente de pouvoir faire ça. Ça fait partie des trucs complètement improbables qu'on peut faire dans la vie en faisant de la musique. Voilà, c'est vraiment dingue. Décidément, tout ça est formidable.
L'anniversaire de la Tour Eiffel qui se terminera après le concert par un son et lumière à 22h, totalement inédit. You feel my anger radiate,
my brutality. Jeanne Hadet, invitée cet après-midi d'Antoine Decaune dans Pop Pop Pop. Et puis pour le son et lumière, c'est à 22h, 23h et minuit ce soir, demain soir et vendredi soir.
Merci Agnès Soubiran.